Je vous invite à ouvrir votre Bible dans les psaumes, au chapitre 146, le 146e psaume. Psaume 146, pendant l'été, on va avoir une petite série sur les psaumes. Il n'y aura pas vraiment de suite de dimanche à dimanche, donc si vous ratez un dimanche, pas de problème, vous pouvez quand même suivre ça sur Internet, mais... Donc je vous fais la lecture, psaume 146, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge, loué est l'Éternel. Le titre que j'ai donné à ce psaume, « Quand le monde est injuste, où placer notre confiance ?» Il y a un peu plus d'un mois, le 29 mai dernier, Liana, une collégienne de 11 ans, disparaît à Florence, dans le Gers. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard. Un homme de 41 ans, qui connaissait la victime, est mis en examen pour enlèvement, séquestration, meurtre et viol sur mineur. L'affaire provoque une très forte émotion et prend une ampleur nationale lorsqu'il apparaît que le suspect avait déjà été signalé pour des violences sexuelles sur des mineurs. Des enquêtes révèlent de graves dysfonctionnements dans le traitement des plaintes et la coordination des services de la justice. À une moindre échelle, bien sûr, nous sommes aussi victimes tout au long de notre vie de certaines injustices, que ce soit à l'école, à la maison, à la fac, au travail, probablement dans l'église. Nous crions « c'est pas juste !» Le méchant continue de nuire et les victimes ne sont pas secourues, ou en tout cas pas à la hauteur de leur attente. Et pourtant, nous soupirons toujours après la justice. Même les méchants qui commettent toutes sortes d'injustices, de vices, se retrouvent un jour à pleurer. C'est pas juste. Parce qu'enfin, ce sont eux les victimes. Et le psaume 146 répond à la question « Quand le monde est injuste, où placer notre espérance ?» Je vous propose ce matin de voir qu'on va chercher à montrer que notre cœur a soif de justice. On verra ensuite que notre soif de justice sera satisfaite. Et enfin, on essaiera de comprendre comment mettre notre espoir, notre espérance en l'Éternel. Regardez, notre cœur ont soif de justice. Quand vous entendez de tels événements, de tels récits d'injustice, il y a quelque chose en nous, chacun qui s'émeut, qui hurle quelque part à l'injustice. Et pourquoi nos cœurs sont faits pour la justice? Mais parce que pourquoi est-ce que nous la recherchons? Pourquoi est-ce que nous la demandons? Pourquoi est-ce que nous souffrons quand nous sommes confrontés aux injustices? Mais parce que nous avons été créés à l'image du Dieu juste. Nous protestons contre le meurtre d'un innocent, l'oppression des faibles, la corruption, le mensonge, la trahison. Nous ne nous indignons pas simplement parce que ces actes nous dérangent. mais parce qu'ils contredisent quelque chose qui est profondément ancré en nous. Parce que Dieu a placé au fond de nos cœurs un sens moral. Comme le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, en Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Il dit qu'il a écrit la loi dans notre cœur. Deux enfants reçoivent un morceau de gâteau. Ça, les familles, vous connaissez cette histoire. Si l'un reçoit une part deux fois plus grosse, l'autre proteste immédiatement. Personne ne lui a donné un cours de philosophie morale. Il possède un sens inné de la justice. C'est pas juste. Mais il y a un détail intéressant, c'est que ce même enfant qui réclame l'équité lorsqu'il est lésé, trouve souvent normal d'avoir une part plus grosse lorsque c'est lui qui en bénéficie. C'est exactement ce que Paul écrit. Le sens de la justice existe et il a été gravé dans notre cœur, mais il est affecté, il est déformé par le péché. Notre désir de justice demeure, mais il est devenu imparfait. Nous dénonçons facilement les fautes des autres tout en minimisant les nôtres. Autrement dit, nous aimons la justice tant qu'elle ne nous condamne pas. Autrement dit, nous sommes faits pour rechercher la justice, mais nous ne sommes pas capables de l'accomplir. Lorsque nous nous sommes confrontés à l'injustice, nous cherchons naturellement quelqu'un qui a le pouvoir de réparer. Nous voulons au plus profond de notre cœur, un justicier. Quelqu'un qui va rétablir la justice. Un dirigeant, un juge, un gouvernement, un leader, un employeur, un parent, un prof. Ou nous-mêmes, quand on ne trouve pas, on prend les choses en main. Le psaume 146 reconnaît ce réflexe lorsqu'il dit au verset 3 « Ne vous confiez pas aux grands ». Au Fils de l'homme. Si le psalmiste nous avertit, c'est parce que notre cœur est spontanément porté à placer notre espérance dans les êtres humains. Au fond, nous espérons trouver ce que seul Dieu peut offrir, une justice parfaite, une fidélité sans faille, une puissance suffisante pour réparer le mal. Suite au drame de Liana, il y a une plainte qui a été déposée contre le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Quelque part, on s'attend au plus profond de nous à ce que les hommes en responsabilité fassent tout leur possible pour préserver ou pour restaurer la justice. Le problème n'est pas que les autorités humaines soient inutiles. La Bible, au contraire, elle reconnaît leur rôle. Mais que nous demandions ce qu'elles ne peuvent jamais garantir, en fait. Le psaume 146 nous rappelle que cette attente ne peut être pleinement satisfaite que par Dieu, parce qu'il est le seul parfaitement juste, sage et puissant. Et du coup, notre soif de justice, au fond, c'est une soif de Dieu lui-même. Nous recherchons Dieu. Nous avons besoin d'un justicier véritable. Et pourquoi sommes-nous toujours déçus? Mais parce que les hommes, ici, verset 4, sont mortels. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre. Ce même jour, leurs projets périssent. Imaginez que l'année prochaine, aux élections présidentielles, nous élisions un super président qui prendrait les meilleures décisions pour l'économie, pour la justice, pour la sécurité, pour l'éducation, pour la santé, pour la famille, pour le social et aussi pour l'international. Ça va? Il faut quand même un bon niveau d'imagination, je reconnais. Hein. Mais imaginez, faites cet effort. Tant qu'il vit et qu'il est en poste, ça marche. Mais l'instant où il meurt, ou qu'il finit son mandat, on retrouve un président normal. Pécheur, faillible, injuste. Notre espérance est courte parce que la mort interrompt tout. Or, la justice doit nécessairement avoir un caractère permanent. Vous ne pouvez pas avoir la justice lundi-mardi. Non. La justice doit être permanente tous les jours. Pas simplement le temps d'un mandat. Non, il faut que la justice demeure et qu'elle demeure éternellement. Et nos hommes ne peuvent pas parce qu'ils sont mortels. Et c'est ce que dit le psaume ici. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ils sont mortels parce qu'ils sont pécheurs. Et ça, c'est la deuxième raison pour notre déception. Ils sont limités par leur orgueil, par leur courage, par leur désir de puissance, par leur richesse, par leur faiblesse morale, par leur égoïsme. Et on ne peut pas vraiment les condamner puisqu'on est pareil. Même les personnes sincères ne peuvent rendre une justice parfaite. Nous sommes déçus, fatalement déçus, parce que nous attendons des hommes une permanence et une perfection qu'ils ne possèdent pas. Le psaume 146 est là pour nous rappeler que cette attente dépasse ce qu'un être humain, aussi compétent ou aussi intègre soit-il, peut accomplir. Le verset 4 nous invite à examiner où repose notre espérance. Il ne condamne pas le fait d'avoir des autorités, des dirigeants, des magistrats, des responsables. Non, il condamne le fait de leur attribuer une espérance ultime. Seul le Dieu vivant, qui règne éternellement, peut être le garant d'une justice qui ne prendra jamais fin. Et c'est pour ça qu'on doit examiner nos cœurs, pour savoir où repose notre espérance. Ne vous confiez pas aux grands, dit le verset 3. Quand je vois l'injustice, vers qui mon cœur se tourne-t-il en premier? Vers la politique? Vers les réseaux sociaux? Vers un leader? Vers ma propre capacité à contrôler les choses? Essayez de, cette semaine, de prier, « Seigneur, montre-moi les faux sauveurs auxquels je demande ce que toi seul peux donner. » Cherchez dans les actes d'injustice que vous pouvez observer. Seigneur, où est-ce que je vais chercher, moi, la justice? Et si ce n'est pas le Christ, demandez-lui pardon. Notre soif de justice, c'est Christ. Ici, il dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob ». Et je trouvais intéressant cette expression « le Dieu de Jacob ». Le psalmiste, il ne l'appelle pas ici l'Éternel ou le Très-Haut, mais le Dieu de Jacob. Je trouve ça touchant parce que Jacob n'est pas un modèle de vertu. Il était trompeur, manipulateur, craintif, bref, un fidèle représentant de la race humaine. Pourtant, Dieu l'a choisi, Dieu l'a poursuivi quelque part, Dieu l'a discipliné et puis il l'a transformé. En parlant du Dieu de Jacob, le psalmiste y rappelle que Dieu est fidèle non pas parce que ses serviteurs le méritent, parce qu'ils sont des hommes ou des femmes fidèles, mais parce que lui est fidèle. C'est un immense encouragement pour les croyants, conscients de leur propre faiblesse, de se tourner vers le Dieu de Jacob, vers le Dieu des pécheurs. Il est le Créateur, verset 6. Il a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Celui qui a créé toutes choses possède l'autorité suprême sur toute la création. Sa justice n'est soumise à aucune autre autorité. Il est différent de tout ce qui existe, de tout ce que l'on peut voir. Il est qualifié pour exercer la justice puisque c'est lui qui a créé les choses. Et puis, il nous est dit toujours au verset 6, il est éternellement fidèle. Il garde sa fidélité à toujours, ce que vous ne pouvez pas trouver chez les hommes qui ont été créés. Vous pouvez le trouver chez Dieu, qui est le Créateur, qui est aussi immortel, qui vit éternellement. Et puis, il exerce, regardez, versets 7 à 9, il exerce effectivement la justice. Le psaume ici accumule les verbes, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, il délivre les captifs, il ouvre les yeux des aveugles, il redresse ceux qui sont courbés, il aime les justes, il protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Autrement dit, Dieu n'aime pas seulement la justice, il l'exerce, il la met en œuvre. Le psaume 146 décrit que ce que Dieu fait, les évangiles montrent que Jésus fait exactement les mêmes œuvres. Vous avez remarqué, on a l'impression de lire un condensé, un résumé au moins de la première partie des évangiles ici. En voyant Jésus agir, nous voyons le Dieu du psaume 146 à l'œuvre. Et ça, c'est une magnifique allusion ou une démonstration même de sa divinité. Jésus accueille les exclus, il réhabilite les pécheurs repentants, il nourrit les foules de pain, de poisson, il révèle surtout qu'il est le véritable pain de vie. Il délivre des personnes possédées, il ouvre les yeux des aveugles, et non simplement les yeux de la tête, mais ceux du cœur. Jésus relève ceux qui sont écrasés par le fardeau de la souffrance et du péché. Il protège les étrangers. Il se révèle à eux comme un sauveur, à un centurion romain, à une femme cananéenne, à un samaritain. Il soutient la veuve et l'orphelin. Pensez à cette veuve de Naïn. Jésus manifeste une attention particulière aux personnes les plus vulnérables. Et, verset 9, il renverse la voie des méchants. Dans les évangiles, on voit Jésus qui pardonne aux pécheurs, qui se repentent. Par contre, il semble qu'il garde toujours sa colère contre ceux qui empêchent les autres de s'approcher de Dieu. Jésus chasse les vendeurs du temple. Il dénonce l'attitude des pharisiens qui éloignent les hommes de la justice divine, qui abusent de leur pouvoir pour empêcher les autres de s'approcher de Dieu. La justice, elle exige toujours deux choses. La première, c'est de protéger les innocents. La seconde, c'est de mettre fin au mal. Et c'est pour ça qu'il y a nécessairement, Dieu doit forcément renverser la voie des méchants. Pourtant, vous dites, ouais, Jésus est venu. C'est vrai que pendant son ministère, il a fait tout ça. Mais pourtant, le mal demeure. L'injustice n'a pas été éradiquée depuis la venue de Jésus. Alors, Dieu a-t-il échoué? Réfléchissez un instant, que deviendrions-nous si Dieu mettait immédiatement fin à tout le mal? Y compris celui qui habite dans notre cœur. Et nous serions renversés avec toutes nos mauvaises voies. Et c'est ça le paradoxe un peu de l'évangile. Le roi juste est venu offrir le salut à ceux qui méritaient son jugement. En Jésus, Dieu est venu faire justice non seulement en soulageant les souffrances des opprimés, mais aussi en s'attaquant à la racine de toute injustice, au péché. Lors de sa première venue, Jésus, le seul juste, a souffert la mort de la croix pour les injustes que nous sommes. Il a fait en sorte que la justice de Dieu soit satisfaite. Nous avons été jugés et condamnés à mort, mais Christ a pris notre châtiment. C'est cela l'évangile. C'est Jésus est venu, il nous a déclarés comme coupables. Et coupables d'une mort éternel, d'une séparation d'avec lui pour toujours. Et à la fois, il a pris notre place à la croix. Il a pris notre châtiment. Lors de son retour, il assurera l'établissement définitif d'un règne où la justice habitera pleinement. Et c'est pourquoi le psaume 146 appelle finalement non pas à placer notre espérance dans les hommes, mais à louer et à attendre le roi qui ne déçoit jamais. La première venue de Jésus-Christ garantit que le psaume 146 est vrai. Dieu accomplit cela. Sa seconde venue garantira qu'il sera pleinement accompli. Pour toujours, définitivement. Entre les deux, l'Église vit cette espérance. Dieu n'est pas indifférent à l'injustice, au contraire. Il a déjà commencé le renversement, mais il l'achèvera au temps qu'il a fixé. Le psaume 146 ne nous invite pas à mépriser les institutions humaines ou les responsables politiques. Il nous appelle à remettre chaque chose à sa place. Les hommes peuvent contribuer à limiter l'injustice, mais ils ne peuvent jamais l'éradiquer. Seul Dieu peut garantir une justice parfaite, parce qu'il est parfaitement juste et parfaitement fidèle et éternel. Ce qui m'amène à mon dernier point. Comment mettre notre espoir en l'Éternel? Je trouve cette bataille tellement difficile, en tout cas dans mon propre cœur. Je sens dans mon cœur une colère contre l'État français quand j'entends cette histoire de Liana. Une colère contre les magistrats incapables de protéger un enfant contre un prédateur connu. Je ressens une certaine colère envers ceux qui empêchent les autres de s'approcher joyeusement de Jésus-Christ. Et je pense que c'est normal. Notre indignation devant l'injustice, c'est la preuve que nous avons été créés à l'image du Dieu juste. Mais notre incapacité à établir une justice parfaite révèle que nous avons besoin de ce Dieu. Le psaume 146 nous invite donc à cesser d'attendre des hommes ce que seul le roi éternel peut accomplir. Mais en tant que chrétien, et en tant qu'Église, il nous demande de travailler à refléter le caractère de Dieu. Sans pouvoir instaurer le royaume par nos propres forces, l'Église est appelée à manifester le caractère du roi, d'annoncer l'Évangile aux pauvres, de prendre soin des plus vulnérables, de défendre les opprimés, de pratiquer une justice empreinte de miséricorde. Non pour remplacer Dieu comme garant de la justice, mais pour être un témoignage d'un vivant de son règne. Et pour cela, le psaume nous commande de louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Mon âme, le psalmiste ici, il commande à son âme, mon âme, loue l'Éternel. Et je vous invite à réfléchir à ça, à ordonner à votre âme de louer l'Éternel. Je célébrerai, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et puis le verset 10, louez l'Éternel. Ordonnez à votre âme de louer l'Éternel. Nous avons besoin de tourner nos yeux vers Dieu, de contempler sa grandeur. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Pendant notre été, essayons de contempler la multitude des étoiles. Essayez de contempler la beauté de la création, sa diversité. Visitez la planète ou le parc près de chez vous et contemplez les fleurs. Écoutez le chant des oiseaux, la majesté des montagnes, les torrents, l'immensité de l'océan, la puissance de ses vagues. Contemplez, contemplez. Plus nous contemplons, plus nous allons fixer notre attention sur le Dieu sage, le Dieu créateur, le Dieu infiniment beau, grand. Plus nous trouverons refuge en lui, plus nous trouverons nous placerons en lui notre espérance. Contemplez Christ dans sa parole. Lisez la parole. Pendant l'été, lisez les évangiles, regardez, émerveillez-vous de son caractère, de sa bonté, de sa grâce, de sa sainteté. Parce que plus nous faisons cela, plus nous saisissons que ce Dieu-là est en train d'accomplir son plan glorieux, que la justice va un jour paraître définitivement, que notre justice a été accomplie à la croix, que notre Dieu patiente encore aujourd'hui pour que d'autres viennent à la foi en Jésus-Christ. Le psaume montre que louer Dieu transforme aussi notre manière de voir le monde et de vivre. Plus nous contemplons son caractère, plus la louange devient naturelle. Du coup, la louange, ça n'est pas un échappatoire à l'injustice du monde. Vous savez, comme des œillères, on dirait, non, je veux pas regarder tout ce qui est moche dans ce monde, je veux juste porter mes regards sur le Seigneur pour voir sa beauté et détourner mes yeux du mal. Non, c'est pas cela. Elle est une déclaration, au fond, de confiance envers celui qui règne avec justice aujourd'hui et qui établira pleinement son royaume. Ce psaume, c'est le premier de ce qu'on appelle l'allèle finale. C'est les cinq derniers psaumes, le 146 à 150. Tous ces psaumes commencent et terminent par cet ordre, louer l'Éternel. Et le psaume 150 commence chaque phrase avec louer. Louez-le, louez-le. Le livre des psaumes s'achève non sur l'injustice du monde, mais sur la certitude que Dieu règne. D'où jaillit une louange qui traverse toutes nos circonstances. Que Dieu nous aide à louer Dieu, à porter nos regards vers lui. Je termine avec deux applications qu'on pourrait essayer de réfléchir. La première, Quand la colère remplit votre cœur à cause de l'injustice, quand vous sentez cette colère venir dans votre cœur, apportez-la devant Dieu plutôt que de la laisser se consumer, vous consumer. Le psaume ne demande pas de devenir indifférent à l'injustice, au contraire. Il nous apprend à transformer notre indignation en prière. Quand une injustice te met en colère, prends quelques minutes pour la présenter à Dieu avant de la commenter sur les réseaux. Dis-lui, Seigneur, toi tu vois, toi tu jugeras, toi tu agiras. Puis la deuxième application, c'est de faire de la louange un acte de résistance face à l'injustice. Louer Dieu, ce n'est pas fermer les yeux sur le mal. C'est refuser de laisser le mal décider où se trouve notre espérance. Alors, prenez chaque jour quelques minutes pour remercier Dieu pour la manifestation de sa bonté. Contemplez la création. Contemplez Jésus-Christ. Et laissez-vous émerveiller par sa personne pour renouveler votre confiance en lui. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu n'es pas le Dieu indifférent à l'injustice de ce monde. Au contraire, Seigneur, tu es venu dans ce monde pour régler la question de l'injustice de ce monde. La première qui habite dans nos propres cœurs à chacun et qui avait besoin d'être pardonnée. Merci, Seigneur, de ce que tu offres cette possibilité encore aujourd'hui à chacun de venir devant toi et de reconnaître notre propre injustice, notre incapacité à satisfaire ta perfection. Mais Seigneur, de reconnaître aussi en Jésus-Christ le parfait, celui qui s'est livré à la croix par amour pour nous donner une nouvelle vie, une transformation de cœur, d'être rendu capable de vivre avec justice. Seigneur, aide-nous à pratiquer cette justice. Seigneur, nous te prions pour que tu nous délivres de la colère qui monte dans nos cœurs en l'abandonnant entre tes bonnes mains, Seigneur. Nous voulons pas être indifférents aux injustices, au contraire, Seigneur. Mais on prie pour que cette colère se change en prière. qu'elle se change en désir de transformer ce monde, de refléter un peu plus de l'amour de ce monde, de l'amour de Dieu à ce monde. Et on prie, Seigneur, pour que le monde puisse voir au travers de l'Église, au travers de tes enfants, Seigneur, répartis dans ce monde, eh bien, la grandeur, un peu de la grandeur, un peu de la beauté, de ta justice et de l'espérance que tu peux nous donner. Merci Seigneur d'apprendre, de nous apprendre à chacun à te louer, de nous aider à le faire en église, de le faire en famille, de le faire individuellement Seigneur. Que nos yeux te contemplent, que l'on apprenne à nous laisser transformer dans cette contemplation Seigneur de ta personne et de ton œuvre, pour qu'on puisse être assuré jusqu'à un jour, eh bien tu rétabliras toute chose parfaitement. C'est toi le justicier. C'est toi celui le réparateur des brèches. C'est toi celui qui va restaurer toute chose, réunir toute chose harmonieusement. Nous voulons te louer pour cela, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.